Suzanne Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente directrice générale de l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, un organisme qui a été fondé en 2007.
Exactement.
Quel territoire couvre dans ce cas-ci ce qu'on appelle la Capitale-Nationale?
C'est autrefois l'appellation 03. Et ça couvre, c'est tout le territoire de Charlevoix, Portneuf, Québec. C'est une population de près de 800 000 personnes, finalement. C'est vraiment tout le territoire, pas la rive sud, mais ce côté-ci.
C'est Rive-Nord.
C'est ça.
Statistique Canada, dont vous parlez de près de 800 000 personnes. Là.
C'est les personnes de Charlevoix, de Portneuf, oui. De la Côte-de-Beaupré, de toute la capitale.
Oui, voilà. Et la ville de Québec. Statistique Canada estime que c'est peut-être pas des données absolument récentes, mais quand même pas si vieilles que ça, qu'il y a environ 100 000 personnes en situation de proche aidant pour
oui,
cette région.
Oui, c'est intéressant, ils sont en train de dire. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Plus on parle des proches aidants, vous savez, plus on a de la chance de les faire reconnaître et de leur procurer de l'aide.
Oui.
Merci. Alors, pour répondre à votre question, on dit c'est assez fiable. Il y a près de 100 000 proches aidants recensés dans la capitale nationale. Alors, c'est 4 personnes sur 10 recensées. Moi, j'ai été proche aidante 12 ans, j'ai jamais été recensée. Et je parle à des personnes qui ne sont pas recensées. Alors, mais on peut partir avec l'idée qu'avec ces statistiques qu'il y a dans la capitale à peu près 100 000 proches aidants.
Ça veut dire qu'il y aurait, si on prend ces chiffres-là, il y aurait un proche aidant par 8 personnes.
À peu près.
C'est quand même énorme.
Et la société évolue à tel point, vous savez comme moi, nous sommes la deuxième population au monde la plus âgée après le Japon.
La région de la Capitale-Nationale ou le Québec?
La province de Québec.
Ah, la province de Québec, d'accord,
mais,
pour me rassurer.
Mais la Capitale-Nationale
dans la
Capitale-Nationale, il y a 18% plus d'aînés qu'ailleurs dans la province de Québec. Ça veut pas dire que tout ce monde est malade.
Non.
Mais ça veut dire qu'il faut prévoir des services. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on est malade. C'est à peine 16% de la population aînée du 3e et du 4e âge qui sont malades. Moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'on a une marchette qu'on est malade.
Est-ce que la qualité de vie dans la Capitale-Nationale, la région de Québec, est à ce point bonne qu'on y vieillit plus longtemps?
Ah, c'est intéressant parce que même dans la région de Portneuf, je vous dirais, c'est là où se trouve le plus de centenaires. Ils ont été fêtés il y a quelques années par la FEDOC. Et les conditions de vie sont certainement bonnes. Ce serait intéressant. Est-ce qu'ils ont le régime méditerranéen? Je ne sais pas. Mais il demeure quand même que les gens vieillissent bien, puis les gens prennent leur retraite, les gens sont en santé. Moi, je le vois, ça fait au-delà de... J'ai été constamment dans le réseau, j'ai été dans la formation infirmière jadis, et je suis près de ces données-là, et oui, les gens évoluent bien, se donnent une bonne hygiène de vie, je crois,
pour
en arriver à cet âge-là.
Mais quand même, il y a beaucoup de personnes malades et on a beaucoup besoin de proches aidants.
Mais il faut se rapprocher de la situation de la proche aidance qui est là, je vous dirais. Ils sont les piliers de notre société. Ils sont les piliers du système de la santé. Ils assument tout près de 90% des soins à domicile. Alors, puis ils deviennent proches aidants. Moi, je suis devenue proche aidante, comme tout le monde. En fin de semaine, j'ai assisté à un colloque, à la journée des proches aidants organisée par l'appui de la capitale. Puis j'avais des dames auprès de moi qui disaient, là, je commence, mon mari vient d'avoir un diagnostic. Tu deviens proche aidant sans t'y attendre. Ça arrive.
C'est pas un choix.
C'est vraiment pas un choix de carrière. Mais par contre, quand les événements surviennent, si c'est ton conjoint qui a un diagnostic ou un enfant, parce que nous, j'ai besoin de vous dire que notre association qui couvre la capitale nationale, nous sommes famille. C'est zéro. Ça veut dire que nous offrons des services, nous travaillons avec les gens de zéro à jusqu'à la fin de la vie. Alors, pour nous, il n'y a pas de critères de discrimination, maladie ou âge. Ce sont des familles avec des enfants handicapés ou des gens qui ont le cancer, des gens qui ont des maladies cognitives, des gens qui ont... Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a que des besoins pour nous.
Voilà. Vous êtes aussi, Suzanne Girard, vice-présidente du regroupement des aidants naturels du Québec.
Ça, je dois dire, je l'étais. L'an passé, là, j'ai donné ma démission parce que la tâche était vraiment très lourde chez moi. J'avais le choix entre mettre beaucoup d'énergie pour développer l'Association des proches aidants, mais nous sommes partenaires, nous sommes toujours membres, nous sommes toujours en lien avec tous les partenaires du réseau qui s'occupent de la proche aidance.
Et donc, vous avez vu, à titre de vice-présidente, au moment où vous y étiez, vous avez vu comment ça se passait ailleurs, comment ça se passait dans les autres associations?
Moi, je vais vous dire, j'ai comme, puisque j'ai le temps, je vais vous dire, en 2007, quand nous avons été fondés, on m'a dit, même des gens du réseau de la santé m'ont dit, qu'est-ce que vous venez faire ici, dans la capitale nationale? Et après une étude, moi, j'ai réalisé que nous étions la dernière région de la province à ne pas avoir d'association de proches aidants. Aujourd'hui, là, le virage est complet. On ne nous dit plus ça, là. Les proches aidants, ça frappe à la porte. Le besoin des proches aidants, vous le savez comme moi, on en parle partout. Et à un moment, il y a une politique nationale aussi qui s'en vient, j'espère. On espère.
Ça fait longtemps qu'on l'annonce.
En tout cas, quand on verra.
C'est la même ministre qui était dans un autre gouvernement oui. Qui a commencé à l'annoncer.
C'est ça. J'ai vu annoncer ça jadis par M. Hébert il y a plusieurs années, là, en tout cas. Mais en tout cas, je trouve que moi, sur le terrain, je vois quand même que la situation évolue positivement. C'est sûr qu'on travaille tous encore pas mal en silo, en pièces détachées. Il y a beaucoup de services, mais encore là, les proches aidants, leur problème, c'est quand ils arrivent à nous, ils sont quasiment aussi malades que leurs malades.
Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils arrivent un peu tard chez vous, ils
et
vont frapper.
Et là, c'est là que je voudrais en tout cas en parler de ça.
Oui.
Quelles mesures? J'ai une idée, là, ouais. Mais je voudrais en parler aussi.
D'accord, Suzanne Girard, on va le faire. Mais je veux justement préciser que très souvent, en parlant de proches aidants et d'une association pour les proches aidants, on pense que cette association-là est pour le malade.
Elle est pour
la personne qui s'en occupe.
Elle est pour le proche aidant, mais on s'occupe en même temps du malade parce que quand on apporte du soutien au proche aidant, que ce soit du répit, c'est qu'il y a une personne professionnelle, des préposés aux bénéficiaires ou auxiliaires familiales formés. Le dossier judiciaire est fait, il y a des assurances et ces gens-là prennent soin du malade. Alors, un proche aidant a déjà de la difficulté à laisser son malade. Alors, il faut que ce soit avec des personnes compétentes qu'on puisse travailler.
À la Fondation, j'imagine que c'était un début. Quels étaient les services qu'on offrait? Qu'est-ce que vous proposiez à ce moment-là, la Fondation, qui a dû s'améliorer depuis le temps?
Je vous dirais, la première année, on a commencé par être comme un centre d'écoute pour les proches aidants. Ça nous a fait comprendre les besoins. Moi, je suis infirmière bachelière, puis je voyais, puis j'étais proche aidante à ce moment-là, et je voyais les besoins. Et nous, l'aide majeure qu'on a eue, c'est de travailler étroitement aussi avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui depuis 7 ans nous supporte à la hauteur de 100 000 $ par année, ce 100 000 $-là va entièrement en répit auprès de 30 000 heures de répit de données depuis 7 ans. Alors, chaque année, il y a environ 200 proches aidants qui reçoivent chacun 32 heures. Puis actuellement, ça s'améliore. On s'est aperçu aussi, quand le proche aidant accepte le répit, souvent, il va nous dire, non, je peux pas. Ils sont tellement fusionnels là, qu'on n'est plus capable d'entrer dans la bulle. Là. Mon mari veut pas ou encore ma femme veut pas. En tout cas, c'est quasiment le malade qui conduit dans la maison. On leur donne des trucs dans le sens, puis ça marche. Les premières fois, là, demeurez à la maison. Souvent, le malade a peur que vous quittiez, a peur que vous ne reveniez pas. Demeurez à la maison, puis finalement, ils s'aperçoivent que des fois, c'est agréable de voir une autre personne, de pouvoir jaser, et ça fonctionne bien. Alors, on s'aperçoit que quand la personne accepte le répit, elle est tellement épuisée, la personne. Des fois, ça fait 4-5 ans qu'elle a soin de quelqu'un, puis elle vient de nous trouver. Elle n'avait jamais demandé d'aide nulle part. Et on l'avait jamais avisé parce que l'idéal, c'est autre chose. C'est pas comme ça que ça devrait se passer, là.
Est-ce que vous manquez de possibilités de vous faire connaître?
C'est évident. Il y a tellement d'annonces partout que...
Ça se perd dans les annonces.
Ça se perd dans les annonces. Et même si nous, on rencontre à peu près tous les groupes possibles de la capitale nationale, les groupes de retraités, on va dans les HLM, on va dans les résidences, on va partout pour faire connaître nos services.
Mais dès qu'un diagnostic est posé dans un bureau de médecin, est-ce que ce médecin-là ne devrait pas avoir... ou son personnel proche ne devrait pas avoir la préoccupation d'aviser la personne accompagnante qu'il y a aussi des services et donner la documentation qu'il faut?
J'adore votre question parce qu'elle m'apparaît la plus fondamentale. C'est que actuellement, pourquoi les proches aidants risquent de décéder avant les aider? Parce que justement, c'est pas ça qui est mis en place. Dans le monde, très proche, là, idéalement, il faudrait, dès qu'une personne reçoit un diagnostic, il faut agir en amont auprès du proche aidant. Il faudrait être comme le coach du proche aidant pour parler avec lui, lui faire voir. C'est pas évident, là, c'est pas des recettes. Hein. C'est pas simple comme ça, là. C'est un humain. Alors, d'abord, il est l'expert. Et tranquillement, d'en arriver à voir ses besoins, à lui faire voir aussi qu'en venant immédiatement se connecter avec de l'aide, ben il ne s'épuisera pas. Parce que le problème, puis ça, vous avez ça dans toutes les statistiques, le proche aidant commence par s'épuiser lui-même, épuise sa famille, épuise ses amis. Puis quand il n'en peut plus, ben là, il cogne dans le communautaire ou le réseau de la santé, puis là... On essaie de faire l'impossible, mais il est rendu à bout de souffle.
Ouais. On a deux malades au lieu d'en avoir un.
C'est exactement ça. On n'a pas réussi encore à trouver le chemin, à construire la route pour agir en amont. Mais on sait que c'est comme ça qu'il faudrait aller.
Suzanne Girard, vous avez parlé de les proches aidants, c'est 90 % des soins qui sont accordés. Est-ce qu'ils sont véritablement les partenaires du système de santé ou s'ils doivent pallier à ce que le système de santé ne fait pas?
Bien, ils pallient à ce que le système de santé, c'est... Si le réseau de la santé et le ministère de la santé n'avaient pas les proches aidants, ce serait un tsunami dans la province. Moi, à la blague, des fois, je dis que tous les proches aidants amènent leurs malades, conduisent leurs malades dans les urgences, ça va être une catastrophe dans la province. C'est là qu'on va voir le rôle des proches aidants. C'est une économie de milliards.
C'est un changement sociétal qui fait qu'on est aux prises avec cette situation-là. Il y avait la coutume de garder les, je vais dire, grossièrement, de garder les vieux à la maison.
Je vous dirais que même on peut jusqu'à aller dire que jadis, dans les familles, il y avait toujours une célibataire qui avait soin de tout le monde.
Oui.
On l'avait dédié à ça, mais on n'en est plus là.
Le battant de vieillesse.
On n'en est plus là. C'est que la société change et il y a des pays qui ont fait ce virage. Est-ce que là, le Québec, pour cette fois-ci, ouvre la porte assez grande pour l'accomplir, ce virage? Moi, j'ai toujours confiance. Moi, je suis d'abord positive. Quand je m'aperçois que ça marche pas, mais je me dis une autre fois, c'est un gros changement de pensée, de paradigme. On a mis en place au Québec les garderies. On a mis en place beaucoup de choses qui ne sont pas offertes dans les autres provinces. On est d'avant-garde au Québec. Pourquoi on ne le serait pas de ce côté-là par rapport aux proches aidants? S'il n'y avait pas les proches aidants, tout le monde veut vivre à domicile actuellement. Est-ce que quelqu'un a comme plan de carrière, je le dis toujours, de s'en aller en CHSLD? Dans certains pays, ça n'existe même plus comme ça. Pour des cas ultimes, ce sont des types de résidences où c'est vraiment plus possible, c'est grabataire et on peut plus les maintenir à la maison. Mais si on avait à la maison les services et les soins palliatifs jusqu'à la fin de la vie, les gens pourraient vivre à domicile au coût de peut-être 10-12 000 $ par année au lieu de coûter 70 000 alors qu'il n'y a personne qui veut s'en aller là.
Est-ce qu'il y a des modèles étrangers qui ont été observés et qui pourraient s'appliquer ou s'aménager?
Oui, il y a des modèles étrangers. Je sais que l'Australie est déjà très en avance, la Scandinavie. Il y a un autre pays. La France est déjà mieux que nous. Le Québec peut se modeler sur des choses, sur des pays. Moi, je sais qu'il y a un pays où même les villes sont impliquées. Il y a comme un parapluie de services. Si une personne a besoin, ça descend. Et au niveau des villes, il y a des points. Parce que le problème actuel des proches aidants, c'est qu'il n'y a pas de points de service. Ils ne savent jamais où s'adresser. Une bonne organisation avec un parapluie de services doit comprendre aussi des points où les gens puissent communiquer, puissent s'adresser pour faire connaître leurs besoins.
Ça fait partie des choses que vous vouliez dire à propos des proches aidants. Vous disiez que vous aviez des idées pour améliorer leur sort et que vous vouliez parler de ça.
Bien, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il nous faudrait absolument, dans la nouvelle politique, dans le plan d'action, là, c'est là actuellement, ils sont en train d'écrire les enjeux, la philosophie et tout.
Est-ce qu'on vous consulte?
J'ai assisté, oui, on va parler.
Vous personnellement et les associations?
Beaucoup de monde, il y avait 200 personnes. Il y avait la majorité étaient des organismes provinciaux, des chercheurs aussi. Et nous, comme organisme de terrain dans la capitale nationale, nous avons été invités aussi. Et nous allons participer, en tout cas, nous avons la volonté de participer au plan d'action de la politique nationale.
La mission de l'association, c'est d'aider le proche aidant en prenant soin de l'aider.
Pour c'est d'aider les aidants à aider.
Oui, vous le dites bien. C'est de lui donner un moment de répit.
Oui.
Mais est-ce qu'on lui donne plus qu'un moment de répit, dire cet après-midi, tu peux aller en toute liberté traîner au centre d'achat, ou si on lui offre des rencontres, de la formation, oui. D'informations.
Oui. On lui donne du répit, mais ça, le répit, dans les années où les gens sont en fin de vie, c'est du répit presque 24 heures par jour qu'il devrait avoir. Mais actuellement, c'est du répit 4 heures, 6 heures semaine, où la personne peut au moins aller à son rendez-vous médical. Elle peut peut-être aller faire son épicerie. Et j'ai commencé à le dire tout à l'heure, quand elle demande du répit, elle accepte presque toujours nos rencontres de soutien psychosocial parce qu'elle a besoin de discuter de sa situation puis de revoir son engagement. Puis souvent, au lieu de penser tout de suite relocalisation quelque part, parce que c'est un drame ça là, et ça coûte très cher, mais souvent, elle accepte de se faire aider davantage et d'être capable de poursuivre son engagement. Nous avons des conférences, des webinaires aussi. Les gens sont à domicile. On a des conférences en salle qui portent sur l'évolution des maladies cognitives. Nous, les conférences, ce sont toujours des thèmes demandés par les proches aidants. Les crédits d'impôt, ça, c'est populaire. Vous n'avez pas idée, là?
Surtout dans
parce
ces mois-ci, oui.
Parce qu'il n'y a à peu près rien que ça. Mais aussi, nous avons, sans que la personne ait à se déplacer, si la première année, nous avons des conférences webinaires. Alors, la personne est chez elle. Si elle n'est pas capable d'aller avec son ordinateur, elle peut écouter par téléphone. Et par la suite, elles sont enregistrées sur notre site et elles peuvent écouter les conférences. Ce sont toujours des conférences qui les aident à voir un peu plus clair dans leur situation.
Un des éléments de la mission de l'association, c'est de promouvoir le rôle du proche aidant,
oui,
et d'assurer sa reconnaissance. On ne sent pas reconnus à leur juste valeur, les proches aidants.
La seule reconnaissance légale que le proche aidant a au Québec actuellement, c'est dans la loi 176 sur les normes du travail. Et nous avons participé, nous sommes allés à la commission parlementaire, nous avons présenté cette résolution, cette recommandation. Je crois qu'elles sont pas mal acceptées. En tout cas, elles se fondent dans d'autres recommandations. Mais c'est la première fois que tout proche aidant a droit à des jours de congé maladie à titre de proche aidant, pas à titre de parent. ou à titre de je sais pas quel autre titre, là, mais comme proche aidant, c'est entendu dans cette loi, il a droit. Puis il y a certaines entreprises qui vont payer des journées aussi de congé.
Ce que demande aujourd'hui même la FADOC dans un document à la suite du fameux procès de Michel Cadot. On demande que ce soit interdit de congédier quelqu'un parce qu'il y a des problèmes de proche aidant et de travail, des problèmes d'horaire.
Mais je crois que dans les normes du travail, il y a des choses prévues à ce niveau parce que moi, j'ai entendu souvent au bureau des proches aidants qui ont des statuts précaires dans des boutiques et ils avaient pris des congés. Puis quand ils arrivent... ce qui les aide actuellement aussi, quand ils arrivent pour revenir au travail, ils n'ont plus leur place. Mais là, actuellement, avec la rareté de personnel, là, ça joue aussi contre les employeurs. Ils sont obligés de faire attention un peu à leur personnel.
Suzanne Girard, parlez-moi un peu du programme PAIR.
Ah, ça j'adore.
Oui, allez-y.
Ça, là, nous sommes accrédités en 2008 par le ministère de la Famille et des Aînés pour offrir ce programme et je crois que nous avons tout près de 500 abonnés et tout près de 200 abonnés, c'est pour la rappel de prise de médicaments et de prise de la glycémie. Mais ce service-là s'adresse aux personnes seules, au couple. Pourquoi au couple? Si le couple a des maladies, un a une maladie cognitive sévère, puis l'autre qui est bien fait un infarctus, l'autre n'est pas capable de lui venir en aide. On en a vu mourir comme ça dans les années antérieures. Ça s'adresse aussi à des personnes qui sont en post-opératoire. Je l'ai vu. On prit le programme pendant 3 mois. Elles étaient seules. Après, c'est beau. Terminé. C'est un programme gratuit qui s'intégrerait très bien dans la politique nationale des proches aidants parce que le but, c'est de maintenir la personne le plus longtemps à domicile avec le plus de sécurité possible. Et je dois vous dire, je ne sais pas si le temps avance, mais il faut que je vous dise que cette année, nous avons sauvé 5 personnes qui seraient décédées, c'est certain, je peux vous le dire, là. Et samedi, on a fait encore un sauvetage.
Dites-nous brièvement en quoi ça consiste le programme PAIR. C'est un programme téléphonique.
Un appel. C'est un appel téléphonique, mais il y a quelqu'un derrière qui parle au monde sans arrêt.
C'est pas une machine qui téléphone,
non. C'est une machine qui sonne, mais tout est à l'écran. Il y a un répartiteur derrière l'écran. Et après trois coups de téléphone, si la personne n'a pas répondu, on l'appelle ou on appelle ses répondants. Et là, on la trouve. Si on la trouve pas, c'est le 911. Les ambulanciers qui se rendent sur place. Et on cesse quand on a trouvé la personne.
Et donc, vous appelez pour...
Exemple, on appelle, c'est Michel Louvain qui est le porte-parole provincial qui dit, si vous entendez bien le message, appuyez sur une touche de 1 à 9. La personne appuie sur une touche. Nous n'acceptons pas le répondeur, elle peut être décédée, puis c'est le répondeur qui va répondre à sa place. Oui. Et la personne appuie, là, on sait que ça va bien. Mais...
Ça peut être aussi pour rappeler que c'est l'heure des médicaments.
Les médicaments, les médicaments, la glycémie, bien s'alimenter, faire de l'exercice. Et là, c'est le message de Michel Louvain qui tourne en boucle. Exemple, à 10h, Madame Tremblay, il est temps de prendre votre médicament. On donne jamais le nom du médicament. Il est temps de prendre votre médicament. Nous avons l'aide des intervenantes du SIUS qui peuvent les inscrire aux médicaments sur notre site web. Alors, la personne, et quand ça fait 3 jours qu'elle n'a pas répondu, qu'elle n'a pas écouté son message, on l'appelle pour voir si elle est toujours là. Pour quelle raison elle n'a pas écouté son message? Alors, on surveille quand même. C'est pas le message avec alerte là, pour la sécurité, mais on surveille quand même...
Et ce service PAIR, c'est un service qui est gratuit.
C'est gratuit.
Les gens ont juste à s'inscrire, à téléphoner, à s'inscrire.
Ils n'ont qu'à s'inscrire chez nous et il n'y a pas de critère. Le critère, c'est que si la personne a besoin de ce service, c'est le seul critère.
Et si parmi les gens qui nous écoutent connaissent des gens qui sont des proches aidants et qui sont peut-être un peu pris dans leur bulle...
Mais d'appeler chez nous...
Oui, et on appelle où?
Au 418-688-1511, faites le poste 221, le poste 0, le poste 224 ou le poste 223. Soyez assurés que ça prendra pas un an avant qu'on vous appelle.
C'est tous les jours?
Nous sommes là de 8h à 16h30.
Tous les jours?
Absolument.
De la semaine. Et le nom de l'organisme, c'est l'Association des proches aidants de
la capitale nationale. J'aimerais bien l'Assemblée nationale, mais là, c'est un peu élevé.
Il y a peut-être besoin de beaucoup de proches aidants de ce côté-là aussi, oui, mais enfin, oui. ils sont en mesure de s'organiser. Alors, Suzanne Girard, présidente directrice générale de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, merci beaucoup.
Merci infiniment de m'avoir invitée.